C'était il y a un an, le 25 avril 2015. Le Népal était frappé par un très violent séisme. Plus de 8000 morts, 100 000 blessés et des centaines de maisons détruites. Une association se retrousse les manches pour aider le pays à se relever. C'est la Fondation des architectes de l'urgence. Nous sommes en ligne avec son cofondateur, Patrick Colombel. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous rentrez tout juste du Népal. On a envie de savoir d'abord comment se porte le pays.
Le pays se porte comme il se peut. C'est-à-dire que c'est pas facile. Très peu de choses ont démarré en reconstruction. Beaucoup de gens sont encore dans des situations qui sont plutôt critiques. Et peu de chantiers ont démarré.
Pourquoi ça prend autant de temps ?
La difficulté est notamment une difficulté qui est politique, c'est-à-dire que le pays a été en pleine mise en place d'une nouvelle constitution. Et en parallèle, ils n'étaient pas préparés vraiment à une catastrophe comme celle-ci, et les outils à mettre en place pour la reconstruction n'étaient pas prêts. Donc ça met énormément de temps, ce qui fait qu'on a tout un process de validation qui a beaucoup de difficultés à se mettre en place pour tout ce qui est bâtiment public.
Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore commencé les reconstructions.
Alors, les reconstructions qui ont démarré sont uniquement des reconstructions d'écoles dans l'immédiat chez nous. On a 8 écoles qui sont en cours, en démarrage, mais avec de grosses difficultés pour démarrer. C'est-à-dire qu'on a pu démarrer vraiment qu'en toute fin d'année dernière. Et ça fait quelques mois, quoi. Et on aurait pu, en théorie, redémarrer dans les semaines qui suivaient la catastrophe, parce que techniquement, on sait le faire. Sauf que administrativement, il y a eu tout un tas de blocages. Et en plus, vous savez, le contexte politique là-bas était très complexe, notamment avec une espèce de blocage complet avec l'Inde qui a refusé de laisser passer des denrées, avec un pays qui s'est retrouvé complètement enclavé, et puis des difficultés qui sont chroniques là-bas, qui sont des difficultés d'approvisionnement parce que les réseaux routiers et d'infrastructures sont très faibles, voire inexistants.
En termes de reconstruction, vous parliez d'écoles. L'urgence, c'est quoi ? La priorité, c'est quoi ? Ce sont les écoles ? Ce sont les maisons ?
Écoutez, dans un pays, de toute façon, il y a des choses qui sont qu'on ne peut pas dissocier. Évidemment, l'éducation, mettre les enfants à l'école est une priorité dans les conditions de sécurité optimum. Et en même temps, il faut s'occuper des gens pour pouvoir les reloger dignement et qu'ils puissent avoir une pérennité sur les constructions dans lesquelles ils vont aller sur le long terme. La question qui se pose vraiment, c'est savoir quelle était la stratégie du gouvernement par rapport au logement. Elle a été la suivante, c'était de dire on veut exclure les organisations internationales des problématiques de logement. C'est un peu ça qui était le fer de lance dès le début, et notamment ce qu'ils ont refusé, qui est plutôt une bonne chose, c'était refuser notamment de faire des habitats transitoires. Donc ça, c'était plutôt une très bonne chose. D'ailleurs, nous, on a milité contre le fait de faire des habitats transitoires et refaire de la reconstruction définitive. Mais faire de la reconstruction définitive dans un pays où l'enclavement et encore une fois la difficulté de reconstruire sur place est compliquée, ça demande un peu de temps et puis ça demande aussi un certain nombre d'études techniques. Faire des habitats pour des populations qui sont différentes en fonction des secteurs, vous avez des castes qui sont différentes, les manières de vivre sont différentes. Donc c'était adapter tout ça par rapport à des constructions qui sont des constructions parasismiques, donc étudiées et faites de manière optimisée comme on pourrait l'avoir ici en Europe. Et ça, c'était une vraie difficulté.
Et sur place, est-ce que vous apprenez aux habitants à construire des maisons, à monter des maisons ?
Alors, architecte de l'urgence, depuis qu'on travaille sur la reconstruction, ça fait quand même pas mal d'années, on a un volet qui est extrêmement important. C'est très peu de gens d'expatriés, entre guillemets, c'est-à-dire des personnels internationaux qui vont sur place. Et on travaille avec du personnel local, en majorité. C'est 95%, c'est du personnel local que l'on forme aux techniques parasismiques, en essayant de trouver des solutions pour que les habitudes, et vous savez, les habitudes des constructions initiales, qui sont des très belles constructions qui sont au Népal, c'est garder ces typologies d'habitat et les matériaux aussi locaux, et quand même trouver des solutions pour faire des constructions qui soient résistantes à l'esséisme. Donc c'est possible, ça demande une technicité, ça demande un apprentissage. Les Népalais sont des gens courageux, donc il n'y a pas de problème pour travailler avec eux là-dessus. Sauf qu'encore une fois, politiquement, ça a été très compliqué parce que jusqu'à maintenant, on est simplement sur des prototypes de maisons qui sont en fonction des ethnies pour que l'on puisse montrer quelles sont les meilleures solutions pour reconstruire.
Dernière question, Monsieur Colombel. À votre avis, combien de temps faudra-t-il pour tout reconstruire là-bas au Népal ?
Vous savez, quand à titre de comparaison, pour Haïti, on est toujours dans des phases de reconstruction, mais on va dire qu'il faut bien 5 ans pour qu'un pays se relève à proprement parler. Sur le Népal, c'est quelque chose de cet ordre. C'est au moins 5 ans pour qu'on ne voit plus vraiment de traces. Mais encore faut-il que les moyens viennent. C'est-à-dire qu'on ait moyen de vraiment de travailler et que les outils étatiques soient mis en place de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler de concert avec les autorités locales.
Merci beaucoup, vraiment Patrick Coulombelle, d'avoir répondu aux questions de France Info. Belle soirée à vous.